Alors, nous sommes toujours en compagnie de Maître Jean-François Gay. C'est la chronique Prendre la route. Et Jean-François, nous allons maintenant parler de la Nissan Rogue ou Rogue. Alors, c'est un, semble-t-il, un véhicule amélioré par rapport à l'ancien modèle.
Bien, certainement. Et le Rogue est un VUS compact et on sait que ce véhicule-là est dans une catégorie assez.
Il y en a beaucoup.
Il y a beaucoup de modèles. Ben, c'est des modèles assez relevés. Si on pense au Chevrolet Equinox, Ford Escape, Honda CR-V, Toyota RAV4, Kia Sportage, Hyundai Tucson, Subaru Forester, puis le Volkswagen Tiguan, puis il y en a d'autres. Donc, je vous dirais, moi, c'est le segment le plus compétitif actuellement sur le marché. Et le Rogue, ça faisait un petit bout de temps que Nissan mijotait là, l'idée de modifier ce véhicule-là. Et puis, pour les intéressés, sachez que le nouveau Rogue va partager sa plateforme avec le nouveau Mitsubishi Outlander. Parce que Mitsubishi appartient à Nissan Renault. Alors, pour couper les coûts hein, de fabrication et de développement, ben il y a des marques qui se partagent là des plateformes. Donc, éventuellement, là, dites-vous bien que peut-être en 2023 ou 2024, le Rogue pourrait aussi avoir à ce moment-là une motorisation hybride rechargeable, comme le Outlander PHEV.
Mmh.
Bon. Alors, cette année, ben c'est toujours le même 4 cylindres, 2,5 litres. C'est un moteur qui gagne un petit peu plus de puissance.
Il y a un moteur seulement, je crois.
Il y a un seul moteur. Ça, je vous dirais... Bon, écoutez, c'est sûr que la majorité des modèles dans la catégorie offrent un seul moteur. Mais éventuellement, s'il y a une motorisation hybride rechargeable, ça va être intéressant parce qu'il va y avoir deux moteurs. Je dis ça parce qu'il n'y a pas de moteur turbo. Et le moteur 4 cylindres, 2,5 litres atmosphérique, la puissance, c'est 181 chevaux. Mais je vous dirais que ça me paraît un peu juste, moi, pour le... Compte tenu du poids du véhicule, si on regarde les accélérations, on parle d'un 0-100 km/h qui frôle les 10 secondes. Donc, ça pourrait être un petit peu plus rapide. Par contre, c'est un moteur qui consomme moins d'essence que le moteur précédent. Parce qu'on s'entend que Nissan n'a pas juste retouché le design du véhicule. Hein, ben, le retouché, plus que retouché, ils l'ont redessiné entièrement. Mais ils ont aussi retouché là, la motorisation.
Oui.
Donc, ça fait en sorte là, qu'ils consomment un peu moins.
Mais encore une fois, tu trouves que c'est un comportement routier un peu ennuyeux, puis la puissance du moteur est un peu juste, comme tu viens de le dire. Là.
Oui, c'est un petit peu juste. Comportement routier, effectivement, un peu ennuyeux, mais peut-être un peu comme tous les véhicules de cette catégorie. Peut-être à l'exception, moi, je vous dirais, du... le Mazda CX-5, Volkswagen Tiguan, Subaru Forester aussi qui est dans une classe à part, mais je vous dirais que Volkswagen et Mazda ont peut-être un petit peu plus le Sportage, c'est qu'il y a Sportage, un petit peu plus de sportivité, un petit peu plus sport au niveau de la tenue de route.
Ouais. Si on regarde au niveau des particularités, tu me parles d'un coffre à bagages qui est modulable, ça veut dire quoi ça?
Ça
veut dire que tu peux le modifier, je comprends, là, mais de quelle façon?
Bien, on peut le modifier dans le sens que sous le plancher du coffre, vous avez un autre compartiment.
Ah.
Donc, ça permet là de cacher là des objets de valeur. Mettons, à l'abri des passants, vous êtes en vacances, tout ça. Vous voulez pas qu'il y ait des objets, là, je ne sais pas, moi, des caméras ou autre chose, un ordinateur, mais vous pouvez cacher ça sous le plancher du coffre à bagages. Donc, ça devient intéressant. Ce qui est intéressant aussi, Jacques, c'est l'ouverture des portières arrière. Tu sais que c'est une phobie pour moi. J'aime ça quand les portes sont grandes, qu'on a de l'espace pour entrer. Les portières arrière, on peut les ouvrir à un angle de 90 degrés. Donc, si vous avez un siège d'enfant, un siège de bébé installé sur la banquette arrière, ben disons que vous allez avoir de l'espace là, pour manœuvrer. Ça, c'est intéressant. Et les sièges aussi, là, les sièges de Nissan, pour leur donner ça, que ce soit tous les modèles, maintenant, c'est des sièges extrêmement confortables, comparativement, moi, je pense à des modèles américains, modèles aussi nord-coréens, des fois que je trouve, moi, que les sièges manquent un peu de... sont pas assez douillets. Mais là, du côté de Nissan, là, c'est un pas dans la bonne direction.
Moi, je m'excuse, là, tu parles des sièges arrière, là.
Des sièges avant aussi. Sièges arrière, sièges avant.
Parce que les sièges avant, moi, honnêtement, j'ai je trouve qu'il n'y a pas, dans plusieurs modèles, aucun problème. C'est des sièges assez confortables. Mais c'est vrai que les sièges derrière, les places arrière, des fois, t'as l'impression d'être assis sur un 2x4.
Oui, comme sur un banc d'église, un banc à bois.
Un peu, oui.
Oui. Mais dans le Nissan, je vous dirais que c'est assez confortable. Puis un bon point pour Nissan, parce qu'on sait que Nissan revient de loin, hein, dans le sens que c'est une compagnie là qui a eu des petits problèmes au cours des dernières années. Et au niveau de l'amélioration, je vous dirais, mais au niveau de la fiabilité, si je regardais, on en reparlera la semaine prochaine, le nouveau sondage de J.D. Power, qui mesure la qualité initiale des véhicules là, qui sortent des usines. Et le véhicule actuellement le mieux assemblé à sortir d'une usine, là, ça serait, selon J.D. Power, la Nissan Maxima.
Mm-hmm.
Et si on regarde aussi le classement, là, Nissan a remporté 3 titres dans 3 segments différents au niveau de la qualité d'assemblage. Donc, moi, je pense que c'est positif pour la compagnie. Puis on en a parlé aussi la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, vous avez la nouvelle Nissan Z là, qui revient, une nouvelle génération. Donc, c'est un plus là, du côté de Nissan.
Bon. Et la question qui tue, combien ça coûte?
Combien ça coûte? Ben, écoutez, encore une fois, comme on parlait tantôt pour la Toyota Sienna, les prix sont en légère augmentation. Ça commence à 30 700 $ parce qu'il n'y a pas si longtemps, genre, quand on parlait d'un VUS compact, on parlait aux alentours de 27 28 000, modèle d'entrée de gamme. Mais là, vous voyez, là, on est rendu à 30 700 du côté de Nissan. Puis si on regarde aussi les compétiteurs de ce véhicule-là, c'est sensiblement la même chose. Ça commence aux alentours de 30 000. Et ça va jusqu'à 42 000 dans le cas de la version platine. Vous avez trois versions. La version S, version SV, version platine. Et la version S et SV est disponible à traction avant ou traction intégrale.
Mm-hmm.
Ouais. Puis moi, je vous dirais, ben dans un climat comme le nôtre, là, au Québec, au Canada, là, c'est préférable d'y aller avec la traction intégrale.
Alors, la question également aussi pour un chroniqueur automobile, la Nissan Rogue, donc, t'en parles, c'est assez positif au niveau des changements, d'après ce que tu viens de nous raconter. Alors, c'est un véhicule que tu conseilles pour les gens qui recherchent ce genre de petit VUS?
Oui, c'est sûr que vous avez l'embarras du choix, là.
Oui, oui.
Mais je vous dirais, moi, mettez-les sur votre liste d'épicerie, hein, sur votre liste d'achat, c'est aller vérifier, puis aller l'essayer s'il y en a en inventaire, parce que il y a des modèles peut-être qui commencent un petit peu à vieillir dans le segment. On pense au Honda CR-V, qui est toujours un bon véhicule, mais qui est dû quand même là pour un restylage.
Mm-hmm.
Mais c'est sûr qu'actuellement, le meilleur vendeur dans le segment, c'est le Toyota RAV4, mais le Rogue a tous les atouts pour rivaliser avec le Rogue. Puis si on regarde le design aussi, hein, c'est toujours important. Moi, je trouve que je regarde, c'est une question de goût, on s'entend, mais le Rogue, là, c'est un très beau véhicule, puis véhicule confortable.
Mais moi, je trouve que parmi les véhicules, parmi toujours les VUS, je trouve que Hyundai, par exemple, et Kia ont fait beaucoup de changements esthétiques sur leurs derniers modèles, puis honnêtement, je trouve que ça donne de beaux résultats.
Ben oui, parce que bientôt, on va avoir à l'essai. La semaine prochaine, on devrait avoir à l'essai le Hyundai Tucson et dans le même segment. Puis là, le Tucson, ben il y a une version hybride aussi, hein, qui est au catalogue.
Mm-hmm.
Puis Kia, le Kia Sportage, qui est un des plus beaux véhicules du segment de cette catégorie, malgré son âge, parce que c'est un véhicule qui approche les 4 ou 5 ans, c'est quand même long. Maintenant, les designers vont renouveler les véhicules aux 3-4 ans pour attirer toujours des nouveaux acheteurs. Et là, on voit déjà la nouvelle génération qui circule, puis je vous dirais que c'est un gros changement. Attendez-vous un gros changement, parce que le Sportage actuellement du côté de Kia, c'est un modèle, moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup au Porsche Macan au niveau du design, un petit Porsche Macan, là. Mais là, maintenant, la nouvelle génération, là, ça sera pas une continuité du design actuel, ça va être vraiment les designers vont dans une autre direction.
Bon, bien, parfait. On n'aura pas le temps pour des appels, bien sûr. On a commencé avec un petit retard, puis là, je vais faire les nouvelles dans quelques instants. On va commencer aussi notre tribune téléphonique. Alors, on pourra se reprendre pour la petite période où, normalement, on prend des appels. On pourra se reprendre la semaine prochaine, si tu n'as pas d'objection.
Ah oh non, je n'ai pas d'objection. Juste un petit détail.
C'est toi le patron?
C'est toi le patron. La Toyota Sienna, je viens de recevoir un courriel. C'est quoi la consommation pour une fourgonnette hybride? C'est 6,5 litres au 100 km. Donc, c'est excellent.
Ben oui.
Pour un véhicule de ce poids-là, un véhicule qui est capable d'embarquer 8 passagers. Puis, si vous y allez avec la traction intégrale, là, dites-vous, là, que vous allez avoir à peine 0,3 litres au 100 km de différence. Donc, c'est minime. Puis, pourquoi? Jacques, parce que c'est un moteur électrique qui va activer l'essieu arrière. Donc, à l'avant, vous avez un moteur essence qui est jumelé avec un moteur électrique pour le rouage avant.
Oui.
Et pour l'essieu arrière, c'est un moteur électrique indépendant qui va activer les roues arrière. Donc, c'est ce qui explique la faible différence de consommation entre la traction avant et la traction intégrale.
Oui, parce que 6 litres au 100 km, là, franchement, là, c'est
vérifié.
C'est vérifié.
J'ai vérifié, j'ai fait 6,5, 6,3 litres. Ouais.
Ben, c'est avantageux. Ben, parfait, monsieur Maître Gay.
Bonne
semaine. Et on se reparle très bientôt. Merci. Nous allons faire une petite pause. Il est presque 00:58. Au retour, bien sûr, petit rappel de l'actualité de ce matin du mardi. Nous sommes le 7 septembre.